Nous sommes de retour, c'est Erdiwa, on est toujours sur le 107.5 FM et puis sur internet, et mais surtout en direct sur la place du Mazel, le coin des moutonniers, pour ce grand direct fleuve, toute la journée des interviews où on va parler pastoralisme et chien et pastoralisme et chien. Il est 10h30, c'est l'heure d'Alain Baudouin. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors Alain, tu viens nous parler de tout plein de choses. La FDO, l'Association des éleveurs hébergés du Vercors, l'élevage drômois, ta vie, l'estive, le métier comme il change, et puis ton histoire aussi. Alors peut-être qu'on peut démarrer de là. Toi et les brebis, ça fait pas quelques mois. C'est pas récent hein, comme histoire.
Non, ça fait pas quelques mois. Aujourd'hui, je suis grand-père et j'ai le poil blanc, pour ceux qui me restent sur la tête. Mais je suis né dans le Diwa, je suis né à Saint-Benoît, dans une petite famille d'agriculteurs et d'éleveurs. D'abord avec des caprins. Et donc, quand on était enfant, on avait chacun un petit peu nos tâches à faire. Et moi, ça ne m'a jamais déplu de garder, d'abord accompagné, puis à partir de l'âge de 7 ans, ben, tout seul, avec la responsabilité du troupeau. Voilà, donc c'est aussi devenu une passion, quoi.
On a l'impression qu'à 7 ans, on est tout petit, et toi, tu partais avec un troupeau de combien de bêtes ?
À l'époque, il y avait une centaine de chèvres, donc laitières, bien sûr, donc il fallait traire et garder, bien sûr. C'était un peu compliqué, il faut dire, parce qu'il y avait aussi les vignes, et les chèvres, c'est plutôt gourmand.
Allez, c'est gourmand de quoi ? Du raisin, des vignes, ça y va directement et ça mange ?
C'est surtout gourmand, en fait, l'été, chez nous, dans le Diwa, c'est tout grillé. Et la vigne, c'est très vert. Ah. Du coup, ça attire un peu l'œil et donc aussi la dent.
Et ça, c'est quelque chose qui te faisait pas peur, qui t'a attiré tout de suite et tu t'es dit, c'est une passion, une vraie passion qui est née, quoi.
Ben, disons que pour moi, ça s'est fait naturellement.
Une évidence.
On peut le dire comme ça, ouais. On peut le dire comme ça. Je pense que c'est comme ça, peut-être que naissent les passions. J'avais la chance d'avoir quelqu'un qui était un chevrier aussi, mais qui était un ancien. Et il adorait partager. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment beaucoup transmis. Je dis bien transmis parce qu'il ne m'a pas appris, il m'a transmis.
C'est plutôt de l'ordre de l'enseignement par la démonstration, par les gestes en fait.
Il m'a appris beaucoup de gestes, il m'a appris beaucoup de méthodes. Il m'a fait voir des choses qu'on n'apprend pas à l'école et que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le transmettre à mon tour. C'est le but de notre métier de berger, c'est d'acquérir donc un savoir et surtout de transmettre.
Et par la suite, comment vraiment ça c'est devenu enfin, ton métier pour de vrai ? T'as repris une exploitation familiale ?
Au départ, oui, puis l'exploitation était assez petite. Et après, je suis passé sur le Vercors, donc, sur le plateau du Vercors. Et là, avec des brebis, donc pour moi, ça allait plutôt très bien. Et comment dire, je m'éclate dans mon travail, parce que c'est, en plus de mon travail, c'est ma passion. Et c'est quelque chose que j'adore, parce que d'abord, c'est une passion qui est très valorisante, parce que notre premier but dans notre métier, c'est de nourrir les gens. De nourrir les gens, ça veut dire que quand on nourrit les gens, on leur fait plaisir. Et tant qu'à faire, quand on fait des bons produits, je pense que dans notre région, que ce soit le Diwa, le Vercors, on peut faire des bons produits.
C'est ça, c'est l'amour de faire du travail de qualité aussi. L'important n'est pas seulement de bosser et d'avoir ses bêtes, mais de les traiter comme il faut et puis ensuite de fournir aux gens qui vont s'en nourrir quelque chose qui les nourrisse, mais d'une belle façon.
Je vais vous faire un comparatif. Moi, quand je vends un agneau à des gens qui vont le consommer, évidemment, le même agneau, moi, c'est un agneau que je peux manger. Les gens qui font de l'élevage industriel avec des volailles, par exemple, ils ne mangent pas ce qu'ils produisent. C'est douteux. Quand quelqu'un produit quelque chose et qu'il ne le mange pas, pour moi, ce n'est pas un signe de qualité, quoi.
C'est là qu'on peut commencer à se poser des questions, oui.
Fortement. Ouais. Oui. C'est grave de faire ça quand même, parce que ça veut dire qu'il faut nourrir les gens, ok. Mais je pense qu'on peut les nourrir sainement. Et puis pas pour que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. Et puis au moins c'est de la qualité. Puis c'est pas qu'un métier de nourrir les gens, c'est très bien. C'est une vraie fonction, c'est une vraie satisfaction. Mais en plus, on fait un travail très important sur tout ce qui est l'environnement. L'environnement, donc, direct, hein, parce que nous, on travaille qu'avec le pâturage. Et avec le pâturage, on favorise la biodiversité, on entretient. Il faut dire qu'on a un métier qui est tout neuf. Chez nous, ça fait dans le Diois ou dans le Vercors, ça fait environ 7000 ans de pastoralisme.
Et ça, c'est tout neuf.
Voilà, c'est tout neuf. Donc après, on a vu arriver des choses diverses et variées. Puis on a vu arriver des gens qui étaient, aujourd'hui, on appelle ça des environnementalistes. Et en fait, on a dit, mais l'environnement, c'est nous qui l'avons en partie créé et puis
continuer
à faire vivre. Et puis, on ne le détruit pas parce que c'est notre outil de travail. Sauf que ces gens-là sont aperçus que peut-être on est trop bête et qu'on ne savait pas valoriser ce côté environnemental. Et ils se sont appropriés un petit peu des choses qu'on avait façonnées nous-mêmes.
En fait, des choses qui faisaient partie de votre quotidien et de votre métier, parce que c'est quelque chose de plus global que de simplement élever des bêtes.
Ah oui. Et puis en plus, garder un troupeau, les gens te disent, tu promènes tes brebis. On peut dire comme ça, sauf que c'est un vrai métier. On peut dire aussi une institutrice qui promène des enfants, mais c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Peut-être, je pense qu'il y a un peu plus que ça. Et pour notre métier, c'est un vrai métier. C'est quelque chose, les bêtes, elles mangent, il faut qu'elles mangent la ressource qu'il y a sur place, mais à certains moments, on va préférer leur faire manger ça, puis il y a une herbe qu'elles aiment un peu moins, donc on va la faire manger en premier, parce qu'au début, elles sont un peu plus gourmandes, et après, ainsi de suite. Et ça fait partie d'un entretien d'un territoire. On travaille aussi, malgré tout, avec la lutte contre l'incendie, parce qu'on débroussaille. On débroussaille, on entretient le sous-bois. Et en plus, c'est... Je ne veux pas parler que des brebis, parce que c'est les troupeaux en général ont cette fonction. Et en plus, ils fument. Donc, de par leur excrément, ils amènent la matière organique qui va permettre à la nouvelle herbe de pousser encore plus belle. Quoi. Et du coup, non seulement ils fument, mais en plus, avec les graines qu'ils ont mangées, une partie sont ressemées. Donc, on peut travailler rien qu'avec des animaux pour refavoriser un endroit où c'est qu'on trouve qu'on est un peu pauvre en une espèce. Si on leur fait manger cette espèce, quand elle est en graine, ils ne vont pas pouvoir digérer tout de suite la graine. Donc, ils vont la réexcrire et on va la ressemer comme ça dans la montagne.
Donc, et puis, il y a cette question aussi, quand on parle de biodiversité, d'un certain nombre d'espèces de flore qui se développent uniquement parce que l'herbe est bien tondue, ou voire même les réintroductions des tétralyres, etc. C'est bien parce qu'il y a des clairières qui sont ouvertes. Que ça peut se faire. Donc en termes de biodiversité, c'est très important le passage du troupeau.
C'est tout à fait ça. C'est que beaucoup d'espèces, surtout dans nos pâturages, que ce soit même des pâturages qui ne soient pas forcément des estives en altitude, il y a quand même des espèces qui sont typiques parce qu'il y a telle espèce domestique qui va la brouter et qui va l'entretenir.
Je pense aux belles orchidées aussi que les environnementalistes adorent voir dans nos pâturages.
Je reviendrai bien sur le rôle un petit peu plus, des institutions, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas isolé dans votre travail, vous formez des syndicats, des fédérations. Tu as un rôle dans la fédération départementale ovine ?
Oui, bien sûr. Depuis de nombreuses années, je suis à la Fédération départementale ovine. Aujourd'hui, j'en suis un des vice-présidents. On a aujourd'hui deux coprésidents et trois vice-présidents. C'est pour se répartir un petit peu sur le territoire. C'est pas tout nouveau, je veux dire. Ça fait longtemps que je suis impliqué dans la Fédération ovine. Du coup, on est à même d'intervenir avec l'État et avec d'autres organisations. Quoi. On est un peu mis en avant et puis on attend de nous aussi de canaliser les gens, de canaliser la production. C'est un besoin qu'ont les éleveurs
de se rassembler pour s'organiser, défendre ses intérêts aussi, parce que
tout à fait.
On peut carrément rebondir sur les difficultés de ta profession aujourd'hui, et se dire que c'est aussi... grâce à ce genre de fédération et de syndicats qu'on limite un petit peu les pots cassés.
Je ne sais pas si on peut parler de limiter, parce que aujourd'hui, notre profession est en danger. la profession de métier et d'éleveur, parce qu'aujourd'hui on arrive à des extrémités et à des choses qui sont très très difficilement supportables. Je veux parler évidemment de la prédation, parce que c'est devenu une pression qui est très très importante. On est très démunis par rapport à ça. Nos anciens ont eu la chance d'avoir une période où c'est qu'ils n'avaient plus de prédateurs en direct, donc sur nos troupeaux. Ça a permis une expansion. Avant, il y avait vraiment beaucoup de troupeaux dans la Drôme, dans le Diois notamment, mais des tout petits troupeaux. C'était des troupeaux qui étaient guère plus que l'autarcie, quoi. Aujourd'hui, les troupeaux sont plus spécialisés, un peu plus gros, et qui permettent parfois, ou au moins l'été, en cas de regroupement, d'embaucher un berger salarié, quoi.
J'imagine que les difficultés, elles viennent pas seulement de ça. La concurrence de l'élevage industriel, ça doit pas être simple non plus. Parce que vous faites pas du tout le même métier, quand même.
Pas du tout, mais je pense que c'est une concurrence, si on veut, parce qu'on n'est pas sur les mêmes produits, en fait. Le Diwa est là pour s'emporter porte-parole. Je veux parler du bio. Avec les territoires qu'on a, que ce soit le Diwa, le Vercors, on peut faire de la très bonne viande. Je ne parle pas que de l'agneau, je pense aussi aux autres espèces. Juste avec ce qu'on produit localement. Donc notamment déjà de l'herbe. Et après, éventuellement du foin pour l'hiver. Mais on peut faire de très bonnes bêtes, naturellement, sans aller chercher de rajouter de la chimie au milieu, ou sans ajouter des produits qui viennent ou qui ont traversé la moitié du monde dans des cargos pour les nourrir. On a tout ce qu'il faut sur place. Voilà, on a tout ce qu'il faut sur place. Évidemment que les produits qu'on fait, c'est une petite échelle comparée à l'échelle mondiale. Et on ne peut pas concurrencer les gros producteurs qui sont, on va dire, industrialisés. Hein. Mais c'est pas du tout le même produit, c'est pas du tout le même goût, c'est pas les mêmes critères d'alimentation pour le cheptel, c'est pas la même viande pour les consommateurs.
Ah non, mais ça c'est certain. C'est juste que effectivement, dans les faits, les gens qui ont pas beaucoup d'argent, on sait comment ils se nourrissent, même si c'est pas forcément à raison. Hein. Mais voilà, vous faites pas du tout le même métier au quotidien et ça donne pas du tout le même résultat dans l'assiette des gens, non.
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui.
Quel est l'intérêt pour les gens comme toi, les éleveurs, de participer à un événement comme celui de la fête de la transhumance ?
Ben après, je suis là aussi en tant que président de l'association des éleveurs et bergers du Vercors, parce que si cette association a été créée il y a déjà 15 ans, c'est le fait que la prédation était de retour et que les éleveurs étaient vraiment, vraiment excédés, quoi. Et du coup, ça nous a regroupés. Quand on est menacé, on se regroupe. De toute façon, c'est propre à l'espèce humaine. Et c'est vrai que ça a développé ce regroupement, on a démarré cette association.
C'est suite à cette réintroduction que vraiment vos conditions de travail ont changé et que vous avez choisi de vous réunir dans ce groupement-là.
Oui, parce que là, on était très, très démunis.
Démunis, oui.
Et on était...
Pas accompagnés, pas préparés.
Non, pas accompagnés du tout. Et puis, qu'on soit démunis, c'était... c'est normal, parce que c'est un fait qui est nouveau. Mais après, on était très contraints. C'est-à-dire que l'État nous interdisait de tuer le loup, nous interdisait beaucoup de choses, quoi. Du coup, ça veut dire que nous, on se sentait comme... vraiment mis sur la touche et délaissé. Quand quelqu'un chez lui a des souris, il va à n'importe quel magasin, il achète des tapettes, il achète des grains et il se débarrasse des souris qu'il a chez lui. Nous, on n'avait pas le droit de faire ça, quoi.
Vous êtes senti pris en otage un peu.
Et ben, et surtout laissé sur le bord, quoi.
Ouais.
Laissé sur le bord, parce que là, l'État nous a dit non, c'est on ne peut pas y toucher. Mais on était complètement démunis. On était une région où c'est qu'il n'y avait plus de prédation comme on peut la connaître aujourd'hui. Il y avait une fois de temps en temps des chiens qui attaquaient des troupeaux, mais ça c'était souvent des chiens divagants ou des chiens qui partaient un peu à la baroule. Mais c'était pas des gros cartons et puis qui revenaient sans cesse comme on peut le voir aujourd'hui. Et là on pouvait intervenir. Quand c'est un chien, ben, on pouvait intervenir, on avait le droit et on le faisait d'ailleurs. Et du coup on réglait le problème très vite.
Aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de régler vos propres problèmes du coup ?
on serait en capacité, parce que d'autres pays le font, ouais. Sauf que c'est rigoureusement interdit. L'espèce Canis lupus est strictement protégée par la Convention de Berne, ce qui nous pose un problème, parce que, encore une fois, l'État nous a menti, une fois de plus, on va dire. Quand il a été réintroduit, on nous a dit, de toute façon, tant qu'il n'y a pas 120 individus en France, l'espèce sera strictement protégée. Bon, on était devant le fait accompli, et puis l'État a toujours raison, donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on en a recensé par l'État lui-même. Il y en a plus de 360 en France. Bon, nous, on sait que le chiffre est très minimisé, et l'espèce est toujours strictement protégée. Donc, je ne sais pas quelle confiance il faut accorder dans ces gens qui nous disent des choses et qui nous affortissent des choses et qui finalement ne les font pas. Donc on a de quoi des fois se sentir démunis et on n'est pas aidé. Parce que si la situation changeait, on sentirait quand même un appel d'air. Et sur la profession, aujourd'hui, on a quand même des difficultés, il faut reconnaître, pour réinstaller des jeunes. Parce que les jeunes, avec cette pression qu'exerce aujourd'hui la prédation, ils ne veulent pas s'installer. Et puis, ils ne veulent pas passer des jours et des nuits au troupeau. Et comme tout le monde, je veux dire, ils ont une vie de famille et ils veulent aussi honorer cette vie de famille. Chose que nous, on a délaissée pendant des dizaines d'années, quoi.
Vous êtes vraiment la génération là, de bergers, d'éleveurs qui a connu une transition dans son métier, dans la façon de le faire ?
Oui, mais je pense que le propre des bergers, c'est de s'adapter. Si on est là depuis 7000 ans, c'est qu'on a su s'adapter à pas mal de choses. On a su transmettre, on a su s'adapter, mais ce qu'on avait avant, c'est qu'on pouvait se défendre. On a toujours pu se défendre, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se défendre.
Comment tu vois l'avenir, du coup, dans les nouvelles conditions qui sont les conditions de travail aujourd'hui ?
D'un point de vue général, il faut être très honnête, hein, on a un État qui est en faillite, qui doit plus d'argent que ce qu'il en gagne, donc je ne sais pas comment l'État peut continuer à payer des dégâts de loups dans des proportions aussi importantes. Mais il faut être honnête aussi, d'un autre côté, c'est qu'aujourd'hui, Dieu sait le nombre de fois que j'ai pu le demander, il y a deux budgets qui ne sont pas consultables, et pourtant c'est des budgets publics, c'est le budget analytique du loup. Quand on demande le budget du loup, on nous donne toujours les chiffres des indemnisations des éleveurs. Sauf que le loup, aujourd'hui, ça fait travailler beaucoup de monde. Personnellement, c'est des gens que j'appelle improductifs parce qu'ils ne produisent, ils nourrissent personne, quoi, à part eux-mêmes. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un certain poids dans la balance. Et puis, c'est des gens qui savent faire pour préserver, pour ne pas pourrir leur profession. Ils veulent garder leur métier. Donc, ils seront encore là et ils seront toujours là. Mais il faut quand même comprendre que chez nous, si on travaille sur l'environnement, c'est parce que c'est notre outil de travail. Si on arrête d'élever des moutons ou des vaches ou des chèvres dans un coin, la nature reprend ses droits. C'est le retour de la broussaille qui revient. C'est le recul donc de l'agriculture, mais c'est aussi le recul du tourisme. Et quand on sait le poids qu'a le tourisme dans la Drôme, et notamment dans le Diois et dans le Vercors, hein. Donc je pense qu'il faut... aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir tout gouverner. Il faut laisser aussi un bon sens paysan qui existe. Et je pense qu'il faut, œuvrer dans ce sens-là. Avec notre association des éleveurs et bergers du Vercors, on a demandé une chose, parce qu'aujourd'hui, la pression est très, très importante. On a demandé que puisse être prélevé, quand il y a des attaques récurrentes sur les troupeaux, tout le temps pareil, qu'on puisse prélever des meutes entières. Parce qu'aujourd'hui, le comportement du loup a beaucoup évolué. Si le berger s'est adapté dans le temps, le loup aussi. Et quand je dis que le comportement du loup a beaucoup évolué, c'est-à-dire que depuis 25 ans, donc ça fait quand même beaucoup de générations de loups, ce loup, il a connu que l'impunité de la part de l'homme. Donc l'impunité, mais en plus, il est nourri.
Il n'en a plus peur du tout, là.
Peur, mais c'est que ça devient dangereux parce qu'il s'approche de l'homme pour la nourriture. Parce qu'il sait que la nourriture vient de l'homme directement ou indirectement. Et du coup, le loup, il est comme nous, hein. C'est un gros feignant. S'il peut manger sans avoir à chasser, ou à risquer sa vie pour chasser parce que c'est compliqué, eh ben, il va aller au plus simple. Et du coup, on n'a pas très bien travaillé parce que aujourd'hui cette impunité, là, le loup, il a ressent, on le voit, il a une impunité, il vient rôder autour des fermes, des maisons. Et aujourd'hui, j'ai pris un peu des chiffres, là, si ça vous intéresse. On a donc les chiffres de la prédation ont augmenté. Mais surtout, aujourd'hui, on a beaucoup d'autres espèces qui sont prédatées. Il y a beaucoup de chiens. Parce que les loups s'approchent des villes, des hameaux et tout ça.
Du coup, ça attaque aux chiens.
Bien sûr.
D'accord.
Et il mange du chien. Donc il mange du chien parce que d'abord c'est une nourriture pour lui. Parce que le chien, il, voilà, c'est, le loup mange du chien parce que pour lui c'est aussi un traître parce que le chien c'est l'ami de l'homme et le chien avertit l'homme quand le loup arrive. Donc il mange du chien. Quoi. Il a toujours mangé du chien, il mangera encore du chien. Mais sauf que là il mange des chiens, des chiens chiens à mes mères, quoi. Ouais. Dans des lotissements, des machins comme ça. C'est plus les chiens des bergers. Moi je m'en suis fait déjà manger. Hein. Je me suis fait tuer et manger des chiens, des chiens de protection. Hein. Aujourd'hui, on leur met des gros colliers à pointe pour pas qu'ils se fassent égorger, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Bah, écoute, ça me fait rebondir directement sur ce que tu viens d'évoquer. Aujourd'hui, c'est la fête de la transhumance à Die, la fête, même si là, on a un peu plombé l'ambiance. Hein. Mais le thème, c'est quand même le pastoralisme à du chien. Du coup, toi, tu es utilisateur, on va dire ça comme ça. Ça ne va pas parce qu'il s'agit d'un animal quand même, mais de ces chiens de protection et de guidage au quotidien dans ton métier ?
Oui, bien sûr. On a deux types de chiens, bien sûr. On a le chien de conduite, qui est le chien de travail, pour faire travailler le troupeau, le guider et le contenir. Et puis on a le chien de protection, qui lui travaille plus par instinct. C'est pas un chien qui obéit à tous les ordres comme un chien de travail. C'est un chien qui a un gros instinct, dont les souches qu'on avait en France, étaient, l'instinct avait baissé, parce qu'il y a trop de générations aussi qui ne travaillaient plus sur la prédation. Et bon, après, on a fait venir des chiens dans d'autres pays où c'est qu'il y a toujours eu du loup, où c'est qu'il y a toujours les chiens ont un très, très gros instinct. Aujourd'hui, moi, j'ai un troupeau donc de 350 brebis. J'ai 9 chiens en permanence avec. Après, quand on fait des lots, on répartit les chiens dans les lots de brebis. Mais je suis obligé d'avoir un nombre de chiens important pour que la protection puisse être efficace. Parce que les loups se sont adaptés aussi, donc ils font diversion d'un côté pour pendant ce temps, d'autres loups attaquent le troupeau d'autre côté. Donc en ayant un nombre de chiens assez important, on arrive à. On limite un petit peu la casse, voilà.
Ouais.
C'est pas une efficacité 100%, il ne faut pas non plus rêver.
Ah bah
mais on limite considérablement. C'est des chiens assez difficiles, parce que c'est des chiens qui dans leur tête, ils font partie du troupeau. Donc quand on fait partie d'un troupeau, c'est une vie sociale. Donc cette vie sociale, ils sont au sein du troupeau, sauf qu'eux, ils sont plus armés parce qu'ils ont des crocs et qu'ils peuvent, ils peuvent répondre quand il y a une attaque. Quoi. Et du coup, ils sont là, ils protègent. C'est leur instinct de protection. Ils protègent leur famille comme une mère ou un père de famille peut protéger ses enfants. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, on en arrive à un point, et si je fais la comparaison, c'est que pour nous, les bergers, les éleveurs, le loup, c'est un terroriste comme les autres. C'est-à-dire qu'il vient quand il veut, il tape où il veut, et après il s'en va. Et en plus, il est protégé. Sauf qu'aujourd'hui, les terroristes n'ont pas de protégé, mais le loup, pour nous, on ne peut pas intervenir. C'est très compliqué pour intervenir, c'est très long, et on ne peut pas intervenir directement. Il y a toujours des dossiers administratifs à remplir. Et c'est... Quand on est berger, on n'est pas administratif. C'est pas tellement... On n'a pas les mains faites pour ça. On a les mêmes faits pour tenir des agneaux, pour aider des agneaux à naître, pour tenir la canne, pour mener un troupeau. Mais on n'a pas des mains qui savent bien manier le crayon.
J'imagine que dans l'administration, on ne demande pas de manier des troupeaux. Du coup, chacun son métier. Hein.
Et les brebis seront bien gardées.
Oui, voilà. Effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Alain Baudouin, d'être venu parler de tout ça. On a bien discuté. Il y a peut-être quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose que tu trouverais important de dire aux auditeurs, aux auditrices de RDIWA ou aux gens qui sont sur la place et qui nous écoutent.
Ben, j'irais un message à faire passer, c'est vrai. C'est tous les gens qui sont là aujourd'hui sont là pour la fête de la transhumance. Et c'est tous des consommateurs potentiels. Ils ont un pouvoir qui est énorme. C'est que s'ils veulent que l'élevage continue d'exister dans notre arrière-pays, en fait, hein, il faut consommer. Mais il faut consommer local. Parce que derrière une consommation, derrière, il y a des gens qui produisent. Donc il y a des éleveurs, il y a des bergers, il y a des écoles, il y a de la vie, c'est du social aussi. Hein. Et puis il y a des paysages qui sont entretenus, donc il y aura aussi du tourisme. C'est un cercle. Mais c'est un cercle où c'est qu'on doit travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que de par cette surprotection du loup, on se sent mis à l'écart. On se sent mis à l'écart parce qu'on ne peut pas intervenir comme on veut et on est en train de faire disparaître notre métier. C'est grave de faire disparaître un métier. Un métier qui a nourri des gens depuis des milliers d'années. Quoi. C'est grave.
Du coup, c'est ça le message que je voudrais transmettre aux gens, c'est de défendre comme ils peuvent le métier en consommant en fait les choses locales, mais enfin pas, finalement pas que l'agneau du Diois, mais
non, toutes les viandes,
le fromage, les autres viandes et tout ce qui est produit en fait localement, ça aide à continuer cette c'est déjà de l'artisanat, non, ou pas? On est déjà là-dedans ou pas? Quand on aime vraiment son métier et qu'on aime faire ça bien, quand on fait de la bonne viande.
Je ne sais pas s'il faut nous comparer à des artisans, mais on est des gens passionnés, les artisans le sont aussi. On est des gens passionnés et qui aiment notre métier, mais qui aiment surtout aussi le lieu où c'est qu'on est. Et les gens qui viennent chez nous en randonnée ou qui sont aujourd'hui là sur la fête de la Transhumance, ici ils sont là, c'est parce qu'ils aiment, ce milieu-là. Et le premier geste qu'ils peuvent faire pour aider tout le monde, ben, c'est de consommer de la viande locale. Comme ça, ils auront toujours des territoires qui resteront ouverts parce qu'il y aura toujours des éleveurs. Que dans le cas contraire, eh ben, on disparaîtra, le tourisme disparaîtra aussi derrière, parce que les lieux se fermeront et les incendies reviendront.
Ah bah, et puis après ça, il n'y a plus rien.
Et après, ben, c'est moche, hein. C'est très moche. C'est très moche, voilà. Donc on est juste un maillon, en fait, hein. On est juste un maillon, mais je pense qu'on est un maillon important, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que malgré tout, en France, les agriculteurs sont propriétaires de plus de 85% du territoire. Donc 85% qu'on doit partager avec beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, on appelle les autres utilisateurs, et on veut bien les accepter chez nous, mais il faut aussi qu'ils jouent le jeu de l'autre côté.
Que ce soit en bonne intelligence.
Ouais. Voilà, qu'ils mangent aussi les produits de chez nous, et qu'ils fassent vivre des familles de chez nous, pour qu'ils continuent à rester des écoles ouvertes, des maternités, voilà, c'est un tour.
Les services publics en général.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, voilà.
Un grand équilibre. Eh ben, merci beaucoup Alain, et puis bonne continuation. Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta journée?
D'abord, je vais retourner sur mon stand, parce que je me dois tenir un stand avec mes collègues donc pour les éleveurs hébergés du Vercors. Et puis tout à l'heure, je vais donner un coup de main à la FDO, parce qu'on va faire que des grillades d'agneau, du Diois, et voilà.
Pour manger à midi et...
Et voilà, pour nourrir la population, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Ben, avec plaisir, et moi je viens de récupérer mes tickets repas, tu vois, j'en ai déjà l'eau à la bouche.
Merci. Eh ben, Alain. On espère que tout le monde passera une bonne journée, et... On espère qu'on puisse continuer d'exister et surtout qu'on puisse vraiment continuer d'installer des jeunes, parce qu'on en a besoin, et c'est eux la courroie de transmission. Parce qu'on est, moi maintenant je vous l'ai dit, je suis grand-père, hein, on a besoin de transmettre. Quand on est grand-père, on a besoin de transmettre parce qu'on sait qu'on ne va pas travailler encore pendant 30 ans. Et il faut transmettre, donc il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait une génération qui arrive derrière, aussi qu'on puisse leur transmettre pour qu'ils puissent à leur tour s'éclater, avoir un métier, aussi qu'ils sont contents d'aller le matin. C'est important.
Merci Alain. On fait un petit tour de ce qui se passe rapidement, cher Baptiste.
Tout à fait, et notamment il va falloir qu'on rende notamment cette antenne pour que la place du Mazel profite de l'inauguration officielle de la fête de la Transhumance, qui va se passer dans quelques instants sur le podium avec une ribambelle d'officiels locaux. Vous allez pouvoir voir au moins de loin le président de l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die qui assure la régie de cet événement, le maire de Die, le président de la communauté de communes. Il y a aussi le nouveau sous-préfet qui sera là.
Oui, qui est sorti de sa réserve à cause des élections. On va pouvoir le voir dans les événements, ça y est.
C'est ça. Entre autres personnes, j'espère ne vexer personne justement parce que je ne
les
ai pas citées.
Oui, mais on va en oublier, il faudrait le dire.
Un point sur le programme.
Eh bien, là, l'inauguration, hein, à 11h30, je sais qu'il y a une visite de l'abattoir. Par contre, c'est sur réservation, donc j'espère que les gens étaient inscrits en avance. Un abattoir assez unique, puisque autogéré par les éleveurs. Oh. Allez, là, musique, là. Maestro.